Salut à toutes et à tous, au sommaire de ce 7ème épisode, nous aurons Hook sur Amiga, encore Hook mais sur arcade, Qbert 1 et 2, J. Darius, Contra, Flashback, The Revenge of Shinobi et la démo Amiga du groupe Complex, Paradigma, bienvenue sur Rétrovision. Rétrovision, 7ème épisode de la saison 3, toujours fidèle au poste malgré les vents, les marées et les tempêtes, pour vous présenter le meilleur du rétro gaming au sens large du terme. Et pour commencer cette émission, quoi de plus dépaysant qu'un bon point and click des familles, un genre qui fait quelques petites apparitions sur les consoles nouvelle génération par le biais de téléchargements. Sur Amiga est l'adaptation du film de Steven Spielberg, sorti en 1991, mettant en scène l'univers féerique et merveilleux des aventures de Peter Pan, ou Peter Pan si on le dit sans l'accent. Vous dirigez Peter Benning, qui est à la recherche de ses enfants, lâchement enlevés par le capitaine Crochet, dans le but de vous affronter dans un duel à 1 contre 1. Mais heureusement, la fée Clochette est là pour vous aider dans ce monde fantastique, en vous donnant parfois quelques indices fort pratiques. Pour les habitués de ce genre de jeu, l'interface graphique des commandes peut paraître originale, mais la différence est surtout esthétique, puisque chaque icône représente une action particulière, rien de bien nouveau donc finalement. Les graphismes, sans être prodigieux, sont tout de même agréables et bien foutus. La palette de couleurs diffère en fonction des lieux visités. L'aspect vieux raffio et planches de bois façon pirate sont fidèlement retranscrits pour nous plonger tout de suite dans l'ambiance. Pendant les point and click, les musiques ne sont pas omniprésentes, laissant ainsi le joueur réfléchir calmement aux énigmes qu'il devra résoudre. Les bruitages prennent ainsi le relais, alors autant qu'ils soient bien réalisés pour les apprécier. Ce point and click suit la trame du film de manière quasi identique. Même certaines répliques ont été directement copiées. À la limite, si vous êtes bloqué à un endroit, vous pouvez toujours regarder le film en guise de solution. Ça peut faire changement des solutions imprimées sur papier. Malgré tout, Hook est un sympathique jeu d'aventure. On regrettera que le fameux monde imaginaire n'ait pas été plus approfondi, à la manière d'un Kirandia. Il a surtout séduit les amateurs du film. Quant aux autres, les pirates purs et durs, The Secret of Monkey Island reste encore la référence absolue. Voilà une adaptation beaucoup moins connue que son homologue point and click, Hook sur arcade, un bon petit beat'em up à l'ancienne, signé Irem, toujours en 1992. Le scénario est identique au film, il faudra encore une fois se confronter contre le capitaine Crochet pour délivrer les enfants de Peter, sauf que cette fois-ci, il sera aidé par les enfants perdus. Nous avons donc le choix entre 5 personnages, avec chacun leur fort faiblesse. La palette de coups n'est pas très étoffée, avec seulement 2 boutons d'action. Chaque enfant possède le strict minimum pour combattre les marins d'eau douce du capitaine Crochet. Il y a tout de même quelques mouvements basiques et une attaque spéciale drôlement originale suivant le personnage que vous avez choisi. J'avoue avoir un petit faible pour Ace avec ses pingouins. Un peu comme dans Vendetta, la limitation du nombre de coups spéciaux est palliée par l'interaction avec les décors et les objets que vous pouvez ramasser pour vous en servir comme projectile. Les décors et les musiques sont de très bonne facture, l'univers maritime et l'ambiance pirate est vraiment bien retranscrit. Vous n'échapperez pas au combat contre les boss de fin de niveau et en guise de fatality, vous aurez le droit à une animation comique. Même si Irem n'a pas la même notoriété que Capcom ou Konami, malgré son légendaire airtype, il va sans dire que cette borne mérite un grand coup de chapeau. Avec un rythme soutenu, un scénario original et des décors de toute beauté, sans parler de la bande son, Hook est un très bon beat'em up qui ravira les amateurs du genre. La nostalgie du début des années 80, une époque où les Américains étaient très prolifiques en matière de jeux d'arcade. En voici la preuve avec Q-Bert, sorti en arcade en 1982. Pour résumer vite fait le principe, vous dirigez un gonocoque à poil dur qui doit remplir les cubes d'une même couleur, tout en sautant continuellement de case en case. Il faudra bien entendu éviter d'être touché par les ennemis durant la descente ou la montée de cette pyramide en 3D isométrique. Les petits disques vous permettent d'éliminer toutes les bestioles à l'écran et de remonter au sommet de cette même pyramide. La conversion sur ColecoVision est plutôt bien réussie, même si elle n'exploite pas complètement les capacités de la console. Le principe reste le même, tout repose sur l'anticipation, les réflexes et la concentration. Suite au succès du premier, il était tout à fait normal de voir une suite à ce jeu d'arcade. Sorti un an plus tard, en 1983, Q-Bert 2 garde le même principe, si ce n'est qu'il faut aligner les cubes à la manière d'un morpion, une fois que tout ceci ait été correctement pivoté selon le modèle qui figure en haut à gauche de l'écran. Il y eut encore de nombreuses adaptations et de dérivés, et c'était bel et bien le début de la Q-Bert Mania aux États-Unis. Un shooter où on en prend plein les mirettes, Gedarius de Taito sur PlayStation, à ne pas confondre avec la série des Gradius de Konami. Dans l'univers des Darius, les ennemis sont essentiellement issus du monde aquatique, comme des poissons géants ou des sardines. Le vilain méchant de service, nommé Tima avec deux i, veut s'amuser à attaquer la planète des deux personnages principaux. Il faudra l'arrêter coûte que coûte avec un super chasseur spatial, le Silver Hawk, un engin très bien conçu puisqu'il allie la technologie terrienne et celle de l'ennemi. Pour résumer rapidement l'armement du Silver Hawk, nous avons une arme principale doublée de missiles et un bouclier. Tout ceci est améliorable en récupérant des orbes de différentes couleurs. On peut considérer que ceci fait partie de la technologie terrienne, car la suite est un peu plus poussée. En effet, vous avez à votre disposition des capture balls permettant de capturer des ennemis afin de les contrôler et de s'en servir comme une arme à part entière. Mais ce n'est pas tout. On peut s'en débarrasser en l'utilisant comme une bombe, détruisant tout à l'écran, ou mieux, absorber son énergie pour déclencher le terrible Alpha Beam. C'est justement cet Alpha Beam qu'il faudra bien maîtriser pour contrer les Beta Beam de l'ennemi. Tout ceci donne une confrontation entre les Beta et les Alpha qui n'ont rien à voir avec les défis stupides des confréries de campus américains. La durée de vie de Jedarius est énorme. Chacun des 15 niveaux comporte deux tracés qu'il faudra choisir un peu comme dans Outrun, ce qui nous donne 5 possibilités de fin différentes. Les décors en 3D sont de toute beauté, alternant paysages aquatiques et traversées spatiales, le tout accompagné par une bande-son éclectique avec des musiques énergiques et parfois très relaxantes. Jedarius est une référence en matière de shoot'em up sur PlayStation. Grâce à son concept, l'originalité des ennemis, l'armement et la possibilité de choisir son propre chemin. Contra de Konami est sans aucun doute l'un des run and gun les plus emblématiques de la fin des années 80. On pouvait trouver la borne un peu partout dans les salles de jeu, bar tabac, bowling, et c'était à grands coups de pièces de 10 francs que l'on s'amusait, la boule à l'estomac, à essayer de faire la meilleure performance. Développé et édité par Konami, Contra fut converti sur de nombreuses machines et sous différents noms. Grisor pour les versions micro-européennes, Probotector S toujours européenne où les mercenaires étaient remplacés par des robots. Les deux héros que vous dirigez se déplacent en vue de côté, avec un scrolling horizontal mais aussi en pseudo-3D avec une vue de derrière. Ces deux phases apportaient plus de diversité au niveau du gameplay. Ceux ou celles qui ont eu le plaisir d'essayer la borne à l'époque doivent se souvenir de sa difficulté diabolique. On avait du mal à passer le premier niveau, et à 10 francs les 3 crédits, si ma mémoire est bonne, il valait mieux rentabiliser son argent en jouant le mieux possible. Et justement, pour nous aider à dégommer les nombreux ennemis, on pouvait récupérer des bonus qui permettaient de changer le tir parmi 4 catégories. Triple, rapide, laser et feu. Contra n'est pas devenu un classique par hasard. Son ambiance, sa technicité, son gameplay en ont fait une référence dans son genre. D'ailleurs, si vous aimez l'univers néo-high-tech à la Contra, Retrovision vous recommande chaudement Midnight Resistance, moins connu, mais c'est incontestablement une autre valeur sûre parmi les run and gun.
Mendes. のび太くんいないや。あれ？まさか。
お兄ちゃん。
どうしよう、のび太くん。どうしよう、どうしよう。
落ち着いて、お兄ちゃん。
そうだ、助けに行かなくちゃ。
Attention, chef-d'œuvre. Si je vous dis Delphine Cinematic Software, début des années 90, j'en vois déjà qui verse une petite larme. Flashback fait partie de la famille des jeux sur micro-ordinateur, tellement bon qu'il fut adapté par la suite sur les consoles de salon de l'époque. En voici la preuve avec la version Sega CD, sortie en 1994, la première apparition étant sur Amiga en 1992. Flashback était un jeu rudement bien travaillé et qui avait presque tout pour plaire. Un scénario en béton, de bonnes scènes cinématiques, un gameplay accrocheur, mais surtout des graphismes magnifiques avec un level design où chaque tableau dispose d'une personnalité qui lui est propre.
Here's a map of the city which you may find useful. Thank you.
Vous incarnez Conrad, un personnage devenu amnésique à la recherche de son identité. Pour arriver à retrouver la mémoire, il faudra traverser 4 niveaux parsemés de pièges et d'embûches avec leur lot de surprises et de rebondissements.
Africa.
Ce jeu d'action-aventure est plutôt axé sur la plateforme. On dirait un croisement entre Another World et Prince of Persia. Conrad dispose d'une palette de mouvements plus qu'honorable. Il est capable de courir, faire des roulades, sauter avec ou sans élan, et même exécuter des sauts verticaux permettant d'atteindre les plateformes supérieures. Les attaques se font par le biais d'un pistolet laser BX-4000 qu'il faudra bien maîtriser pour abattre les ennemis qui ont tous un schéma comportemental récurrent. La version Mega CD apporte quelques améliorations ou modifications pour certains. Support CD oblige, vous aurez le droit à des voix digitalisées, des scènes cinématiques en images de synthèse et une bande son orchestrée qui colle parfaitement à l'action. Alors, entre le support CD et les disquettes, notre cœur balance. Mais pour les nostalgiques purs et durs, ce sera définitivement la sortie originale sur micro-ordinateur qui aura toujours le dessus. Joe Musashi est de retour sur Mega Drive avec The Super Shinobi, aussi connu sous le nom de The Revenge of Shinobi sur la Mega Drive européenne et la Genesis. Cette cartouche était la première à voir le jour sur la 16 bits de Sega après des adaptations sur Master System peu convaincantes. Le célèbre ninja va devoir, encore une fois, affronter le clan Neo-Zid, ivre de vengeance suite à leur démantèlement quelques années plus tôt. Armé jusqu'aux dents, et même plus haut, Musashi a de quoi se défendre. Avec une bonne centaine de shurikens, son fidèle katana et 4 magies issues du ninjutsu, avec chacune leur particularité qu'il faudra utiliser en fonction du type de danger à surmonter. En plus de cela, de nombreuses caisses en bois refermant plusieurs genres de bonus seront éparpillées tout au long des niveaux. Il est préférable de ne pas trop en laisser passer, car ici les shurikens ne sont pas illimités. Attention de ne pas tirer n'importe comment, n'oubliez pas que vous dirigez quand même un talentueux ninja. Autre technique du ninjutsu, le double saut tourbillon, idéal pour atteindre les plateformes situées en hauteur et dévastateur lorsque vous appuyez sur feu pendant la rotation. Ce n'est pas moins de 8 shurikens qui seront envoyés en arc de cercle. La progression se fait normalement, sans objectif à atteindre, comme par exemple la libération d'otages. Les niveaux sont variés, avec des décors dépaysants. Vous trouverez pas mal de lieux différents, avec un design magnifique et une atmosphère unique. La bande-son signée Yuzo Koshiro est comme à l'accoutumée bien produite, avec des passages funky jazz plutôt surprenants. Cette première adaptation sur Mega Drive remonte le niveau de la série. La réalisation technique est de grande classe et c'est toujours un énorme plaisir de refaire quelques parties endiablées pour arriver courageusement au repère des Neo-Zid afin de crier Revenge of Shinobi. C'en est terminé pour cet épisode 7, en espérant que vous vous êtes bien amusé en regardant l'émission. On se donne rendez-vous dans pas long pour un hors-série, le 5e, qui sera entièrement dédié à l'Amiga 500. D'ici là, amusez-vous bien et ne faites pas trop chauffer les machines.